Quand nous parcourons la Bible, il est question de l'humanité qui était sous la domination du péché, sous la domination de l'ennemi, de Satan, on peut le nommer. Et la Bible nous dit qu'avec la venue de Christ, il y a 2000 ans, cette domination a pris fin dans la vie de ceux et celles qui l'ont accepté et qui vont encore l'accepter comme leur sauveur et leur Seigneur. Alors, nous sommes donc censés, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans la victoire que Christ nous a acquise sur le bois de la croix, ou je dirais même par son œuvre achevée. Mais force est de constater que rares sont les enfants de Dieu qui vivent dans la victoire. Ce qui devait être normal, ce qui devait être naturel, spirituellement parlant, pour nous, ne l'est pourtant pas. Nous sommes dans la victoire et moi j'ai toujours cette image quand je pense de la libération que Christ nous a apportée parce que nous vivons dans un pays qui a connu des moments difficiles dans son histoire. Je ne suis pas là pour prendre parti pour quoi que ce soit, mais pour essayer d'introduire maladroitement, je l'avoue, mon message. Mais quand on pense, par exemple, aux guerres qu'il y a eu au XXe siècle, les deux guerres, et plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale, on sait que la France a été sous occupation, on est d'accord. Mais lorsque la France a été libérée sous occupation, les gens étaient terrés chez eux, les gens avaient peur, les gens ne vivaient pas. Mais quand la France a été libérée, moi, je vois les images de Paris, c'était la liesse, alléluia. Ils étaient libres, ils pouvaient vivre enfin. C'est ce qu'il s'est passé avec Jésus. Alors que le monde était sous la domination du péché, le monde gisait dans le mal, le monde gisait sans un sauveur, sans un secours. Lorsque Jésus est arrivé, pour ceux et celles qu'il accepte comme sauveur et seigneur, ils sont libres. Mais pourtant, nous ne vivons pas cette liberté. Peut-être parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas très bien comprises. J'aimerais pour cela ce matin peut-être apporter une lumière à quelqu'un, lui donner une clé. S'il y a seulement une personne ce matin qui reçoit une clé au travers de ce message, j'avoue humblement que j'aurai accompli ma mission. Parce que vous savez, frères et sœurs, si Jésus est venu mourir, ce n'est pas pour que nous vivions comme quand nous étions sans aucun sauveur, sans aucun secours. Cela n'a pas de sens, et vous le savez bien. C'est pourquoi ce matin, j'ai intitulé mon message « Esprit versus chair, comment marcher dans la victoire ?» Comment marcher dans la victoire ? La victoire nous est acquise, frères et sœurs. Ne nous leurrons pas. Ce n'est pas à nous de chercher une victoire. La victoire, elle est acquise. Les gens qui étaient terrés, qui avaient été libérés, ne sont pas allés au combat. Ils ont juste bénéficié de la victoire qui leur avait été acquise par la France et ses alliés. Ils n'ont pas eu besoin. Ils étaient terrés. Mais quand la France et ses alliés ont eu l'avantage sur l'ennemi, sur l'adversaire, eh bien, les gens qui étaient terrés de peur de leur vie, qui était sous l'occupation, quand ils ont vu que la victoire était arrivée, ils se sont levés, ils sont sortis. Frères et sœurs, nous savons que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Et quelquefois, nous sommes si souvent tentés de mener cette vie avec nos propres capacités. Et nous nous demandons pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous tournons en rond, pourquoi nous faisons, il paraît qu'on appelle ça la danse indienne, tourner en rond, tourner comme ça, faire la danse indienne, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais aborder trois choses avec vous, principalement. J'aimerais qu'on puisse voir ce que c'est, parfois nous confondons les deux termes, ce que c'est le vieil homme et la chair. Nous les confondons, nous disons, le vieil homme c'est la chair c'est le vieil homme. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble quelle est la dichotomie qu'il y a entre l'esprit et la chair. Et ensuite, nous allons regarder qu'est-ce que nous pouvons en tirer en ce qui concerne les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Pour introduire cette notion de chair, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte dans le livre de la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Elles sont toujours belles aujourd'hui. Béni soit Dieu. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Après quelques recherches, c'est pour la première fois où dans la Bible, il est question de chair. La Bible nous dit que lorsque Dieu a pris la décision de créer l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance, il les a créés ensuite, il a formé le premier Adam, il lui a formé un corps et il a soufflé dans les narines un souffle et Adam est devenu une âme vivante, un être vivant. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme est avant tout esprit, frères et sœurs. C'est le problème que nous avons parce que il faut que nous comprenions. Je vais aller doucement, je sais que je parle vite. Et certains ont parfois du mal à comprendre même mon accent. J'en suis conscient, mais j'aimerais aller doucement ce matin pour que nous puissions vraiment aller pas à pas, que nous puissions comprendre. Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis l'homme esprit qu'il a créé dans un corps. Et en soufflant dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. C'est vrai que c'est une équation pas simple à résoudre. On se dit, mais c'est quoi cette histoire d'esprit, d'âme, de corps? Dieu a voulu nous créer ainsi parce que Dieu, dans sa préscience, il savait où il allait placer l'homme et comment est-ce qu'il allait être en contact avec l'homme. La première dimension de l'homme, c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension avec laquelle l'homme peut être en connexion avec Dieu. La deuxième dimension de l'homme, c'est la dimension, on va dire, de l'âme. L'âme, c'est là où Dieu a voulu que l'homme ait lui-même son libre arbitre, sa volonté, ses émotions, ses sentiments, ses pensées. Et le corps que Dieu nous a donné, c'est pour que nous soyons en contact, nous soyons sensibles du monde matériel qui nous entoure. Ce matin, vous utilisez un sens pour pouvoir m'entendre. Pour que vous soyez conscient, ou du moins que vous écoutiez ou entendiez, ce que je vous dis, vous avez besoin de quoi? De votre sens qu'on appelle lui. Dieu a voulu que les choses soient faites ainsi. C'est pour cette raison que Dieu ne viendra pas vous toucher dans votre corps. Quand on dit « j'ai senti la présence de Dieu », c'est une exagération. Parce que Dieu ne le sent pas avec notre sens. Mais j'espère que pour la plupart d'entre nous, ou pour chacun d'entre nous, quand nous disons que nous avons senti la présence de Dieu, c'est que nous l'avons senti avec le sens de l'esprit. Parce que l'esprit aussi a des sens. Et le sens de l'esprit, c'est la foi. L'âme a des sens. Les sens de l'âme sont les émotions, les sentiments, les pensées que nous avons. Le corps a cinq sens, comme nous le savons. Vous savez, il y a même des philosophes qui ont pensé à cela, qui ne savaient pas comment le caractériser, qui ont parlé du moi et du surmoi. Ils disaient le moi, c'est leur ego, et le surmoi, c'est quelque chose qui supplombe, qui est au-dessus de l'ego, qui peut nous faire transcender. Mais moi, je reste dans les termes bibliques, parce qu'ils sont préférables. Dieu a voulu nous créer de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé l'esprit sans chair pour vivre sur la terre. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que les cieux sont l'habitation de Dieu et la terre son marchepied et notre habitation. Dieu a créé l'homme et la femme pour la terre. C'est pour cette raison que même lorsque nous serons ressuscités, ce corps qui a été corrompu, il va nous être ôté et il va nous être donné un corps qu'on appelle le corps de l'incorruptibilité. C'est pour vivre où? Nous allons tous vivre dans la nouvelle Jérusalem. Celle qui descendra d'auprès de Dieu. Et nous n'aurons plus besoin du sceau parce que Dieu sera notre lumière. Frères et sœurs, nous devons être conscients de ces choses. Et donc dans le texte que nous avons lu, nous voyons que c'est un texte qui suit bien évidemment la déchéance de l'homme, le fait que l'homme ait abandonné la parole que Dieu lui avait donnée. Dieu avait dit à Adam, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin. Est-ce que quand Adam a mangé de ce fruit, il est tombé raide mort? Alors de quelle mort parlait-il Dieu? Si Dieu nous parle de la mort spirituelle, autrement dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme n'a plus de connexion avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Et c'est pourquoi au chapitre 6, Dieu dit, « Ça n'est terminé, ça n'est fini de l'homme. Mon esprit que j'avais soufflé quand je l'ai formé dans un corps, mon esprit que j'avais soufflé en lui, je vais le retirer et l'homme n'est plus que chair. » Autrement dit, désormais, il ne vivra que par ses propres pensées, par ses penchants, par ses désirs, il vivra comme il a envie, parce qu'il n'a plus de lien, il n'a plus de contact, il est désormais privé de ma gloire. Donc quand on parle de chair, ce n'est pas un terme si péjoratif que cela. C'est un terme qui définit à la base le fait de l'homme devenu sans Dieu. Et c'est vrai que ce terme, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, va emprunter plusieurs sens, pas autant que ça. Par exemple, dans le texte qui suit, on peut lire ce que l'apôtre Paul dit aux Galates en ce qui concerne sa santé. Il va dire, vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Il dira, et mis à l'épreuve par la chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Paul ici va donner à la chair, bien évidemment, va donner à son corps. Voilà, il va appeler son corps la chair. Il va l'appeler comme ça. Et dans le texte qui suit, la chair peut aussi prendre la connotation, bien évidemment, de l'être humain, comme je l'ai déjà dit. Ésaïe. Ah. C'est celui-là. Je crois que... Non, mais c'est moi. Hein. J'ai dû... Ésaïe. Voilà. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair, c'est-à-dire tout être humain, est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ici, Ésaïe donne à l'être humain qui est sans Dieu la connotation de chair. C'est chair. L'être humain sans Dieu est chair. Et dans le texte que Marido a présenté avant, je crois que c'est moi qui suis passé peut-être trop vite. Dans celui de Galates, voilà. Donc il y a aussi cette notion de... Ça c'est Paul. Oui, ça c'est bien évidemment Paul, oui. Ben oui, ça suit bien alors. Oh là 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 là. Marido, qu'est-ce qu'on fait là hein? Ça suit bien. Et on a aussi dans Luc ou dans Jean, la diapo qui suit, toujours cette notion de chair qui représente l'être humain. Lorsque Luc nous dit « Et toute chair, c'est-à-dire tout être humain, verra le salut de Dieu » ou lorsque, justement, Jésus, dans Jean, nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ici, il est question de l'être humain. Donc, cela peut prendre la connotation du corps, la connotation de l'être humain, mais ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est ni la première ni la deuxième, mais c'est plutôt la connotation, bien évidemment, de ce qui est l'être humain né de nouveau, comme vous et moi, la plupart d'entre nous, nous sommes nés de nouveau et nous avons notre esprit qui a été régénéré par le Saint-Esprit et maintenant nous vivons dans un corps et une âme qui, eux, n'ont pas été régénérés. C'est ça le problème, la vie chrétienne, c'est cela. Ce n'est pas une question de non, je n'arrive pas à faire ceci, je ne peux pas faire, je ne comprends pas. Non, c'est que tu as un esprit qui est né de nouveau, qui a reçu les choses de Dieu. Mais tu as une âme et un corps qui ne sont pas nés de nouveau. Comment composer avec une âme et un corps qui ne sont pas nés de nouveau? Et c'est cette âme et ce corps-là ensemble qu'on peut appeler chair, qui sont ligués contre l'esprit. Comment faire en sorte que l'esprit triomphe, bien évidemment, de la chair? Nous avons besoin de comprendre ces choses, frères et sœurs. C'est pour cette raison que la chair, c'est quelque chose avec laquelle vous et moi devrions traiter. Ce n'est pas Dieu. Vous verrez plus loin quand on le verra. Vous connaissez bien ce texte de Galates où il est question des œuvres de la chair. Nous allons le voir. Il n'est pas question de Dieu. Dieu a fait tout ce qu'il devrait faire sur le bois de la croix à travers son Fils. Et nous allons voir que ce que Dieu a fait sur le bois de la croix, c'est que bien évidemment, il a crucifié le vieil homme avec ses passions et ses désirs. Et c'est ce qui est marqué dans Romains. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, j'ai mis en parenthèse le vieil homme, c'est ce qui est traduit dans d'autres traductions, a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Le vieil homme, c'est la nature adamique que nous avons héritée. Et c'est de cette nature adamique que Christ est venu se charger sur le bois de la croix. Christ est venu réaliser des choses spirituelles sur le bois de la croix. Bien évidemment, les choses spirituelles qu'il a réalisées sur le bois de la croix doivent avoir un impact certain sur les choses matérielles de notre vie. Le vieil homme, ce n'est pas la chair. Le vieil homme, c'est la nature adamique. C'est la nature pécheresse. C'est l'usine à production de péché. Christ est venu ôter cela. Il est venu déraciner. Il est venu prendre le péché. C'est pour cette raison, quand vous lisez l'épître aux Romains du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, ou du moins jusqu'au chapitre 6, Paul est en train de parler des péchés. Et ensuite, il va parler du péché. Ce n'est pas la même chose. Parce que le péché, c'est la nature. Les péchés, c'est ce qui découle de cette nature. Ça va, vous suivez? Ouh là là. Ah, ils ne sont pas motivés là ce matin. Quand on parle du péché, on n'est pas en train de parler des actes qu'on commet d'abord. Non. C'est une nature. C'est une nature. C'est pour cette raison que la Bible dit que Christ, Jésus n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. C'est-à-dire, il a pris cette nature que nous avons héritée par la désobéissance de Satan. Et c'est cette nature-là, avec ses passions, qu'il a clouée sur le bois de la croix. Maintenant, il nous dit la chair. L'homme qui est né de nouveau, la femme qui est née de nouveau, ton esprit est régénéré. Maintenant, il te dit à toi de marcher quoi? Selon cet esprit qui est régénéré, dans lequel vit le Saint-Esprit, afin que tu domines sur les œuvres de la chair. Ni vous ni moi ne pouvions être capables de lutter contre le vieil homme. la solution que Dieu a trouvée pour le vieil homme, c'était de le crucifier avec son fils. Nous ne pouvons pas lutter avec le vieil homme, frères et sœurs. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dira, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir quoi ? L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, quand Dieu nous dit de revêtir l'homme nouveau, c'est qui l'homme nouveau ? C'est cela, frères et sœurs. Si le vieil homme a été crucifié, la Bible nous dit que le vieil homme concerne notre vie passée. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand tu considères ces choses-là, en voulant tout de suite les matérialiser, tu vas avoir des problèmes, mon frère et ma sœur. Pourquoi ? Parce que quand on te dit « toutes choses sont une nouvelle créature », on ne dit pas « un nouvel homme, une nouvelle femme ». Non, créature, parce que ce que Dieu a créé, c'est quoi ? C'est l'esprit. Dieu a créé, quand on a vu créer l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est l'esprit qu'il a créé, à qui il a formé un corps et il lui a donné une âme. Donc, si nous sommes une nouvelle créature, c'est que c'est l'esprit qui est né de nouveau. Et cet esprit qui est né de nouveau, c'est un esprit fort. C'est un esprit vaillant. C'est un esprit dans lequel il y a tout ce que Dieu veut pour l'être humain. C'est un esprit dans lequel il y a toutes les bénédictions. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira en même temps encore à ses chrétiens d'Éphèse, il leur dira, mais il faut que vous sachiez une chose, bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Comment ? Spirituelles. En Christ, dans les lieux célestes. Les bénédictions de Dieu sont d'abord spirituelles, frères et sœurs. Elles ne sont pas d'abord matérielles. Non, elles se matérialisent. Donc, le vieil homme concerne notre vie passée. Et il demeure en position de mort. Mais l'homme nouveau, regardez, on dit l'homme nouveau a été créé par quoi ? Selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi ? La vérité, la parole de Dieu. Quand tu as accepté Dieu comme sauveur et Seigneur, c'est parce que tu as été à l'écoute de la parole de Dieu. Tu as dit, j'accepte ce Jésus-là dont j'entends parler. Je l'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est ainsi que tu l'as accepté. Il est devenu ton Seigneur, il est devenu ton sauveur. L'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est celui qui sait vivre selon son esprit pour dominer sur sa chair. C'est ça l'homme nouveau. Nous ne pouvions pas nous occuper du péché et de notre nature pécheresse, c'est impossible. Alors, si l'homme nouveau, comme nous disons, nous confondons la chair et le vieil homme, si la chair et le vieil homme étaient la même chose, autrement dit, nous sommes des hommes et des femmes remplis de deux esprits. Puisque le vieil homme, c'est la nature satanique que nous avons héritée d'Adam, alors si nous avons encore le vieil homme en nous et nous avons le Saint-Esprit, autrement dit, nous avons l'Esprit de Dieu et l'Esprit du vieil homme. Ce n'est pas possible. Les êtres humains ne sont pas bicéphales. Nous avons une seule tête. Vous comprenez maintenant ? Mais la chair, elle est là parce qu'elle n'a pas été régénérée. Comme l'esprit l'a été. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va s'adresser également aux chrétiens de Colosse pour leur dire ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Les choses dont il parle ici, ce sont les disputes, ce sont toutes ces choses, les divisions. Il va dire, renoncez à toutes ces choses. À quoi ? Nous le voyons. À la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. vous étant dépouillé quoi? Parce que c'est le vieil homme qui est l'usine qui produit quoi? Le mensonge. Alors si ton vieil homme est mort, quelqu'un qui est mort ne peut plus mentir. Même s'il était un grand menteur, quand il est dans son cercueil, il ne peut plus rien dire. Alors si toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes morts avec Christ sur le bois de la croix, si notre vieille nature pécheresse est morte avec Christ sur le bois de la croix, mais le mensonge fait partie de quoi? De notre vieille nature. Alléluia. N'accusons pas les démons, on va le voir tout à l'heure. Et ayant revêtu l'homme nouveau, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de celui qui l'a créé, l'image spirituelle que nous avons par rapport à Dieu. Si le vieil homme n'est pas la même chose que la chair. Le vieil homme, c'est quelque chose, c'est l'affaire de, ça a été l'affaire de Jésus-Christ. La chair, c'est notre affaire à vous et moi. C'est ça, quand on parle du combat de la foi, là, quand on parle de renoncer, beaucoup croient qu'il est question des maladies, mais tout le monde tombe malade. Tout le monde parfois a des problèmes d'argent. Tout le monde parfois, les gens peuvent parfois se retrouver au chômage. Les gens, je ne suis pas en train de mépriser toutes ces situations qui sont réelles. Les gens dans le monde, dans n'importe quel pays, c'est les mêmes situations. Il y a des gens qui sont endeuillés au moment où je vous parle. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des gens qui sont en train de mourir, en train de souffrir parce qu'ils n'ont plus d'abri à cause de l'ouragan ou je ne sais pas de quoi d'autre. Il y a toutes ces choses. Mais quand Dieu nous demande de renoncer, il ne nous demande pas de renoncer à cela. Il nous demande de renoncer à notre « moi », comme disait le philosophe, à notre « ego », à notre « chair », qui elle fait quoi? L'animosité, là. Notre « chair ». C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galates, pour aborder maintenant l'esprit et la chair. Voici ce qu'il va leur dire, le texte que vous connaissez très bien. Il dit « Je dis donc ». Quand il dit « donc » là, vous savez « donc » traduit toujours quoi? La conclusion de ce qu'on a déjà dit, hein? Eh bien oui, c'est ça le français. Donc il conclut, il dit « je vous dis donc » par rapport à quoi? Si vous lisez ce qu'il a déjà dit pendant les 15 premiers versets du même chapitre, vous allez vous rendre compte qu'il est question des mêmes choses que nous avons lues là, animosité de choses comme ça, des querelles entre frères et sœurs. Il dit « je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc ce sont deux choses qui sont intimement liées. Il dit, si quelqu'un marche selon l'esprit, il n'accomplira pas les désirs de la chair. Alors, si tu marches selon la chair, tu n'accompliras pas les désirs de... C'est tout simple. Pas besoin d'aller à l'université pour ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire qu'elles sont évidentes. Personne ne peut se tromper parce qu'elles sont là, elles sont évidentes. Et vous avez la liste. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. À un moment, le Saint-Esprit dit à Paul, on va s'arrêter là. Mais maintenant, les choses semblables. Parce que sinon, on n'en finira jamais. On s'arrête là, on a fait déjà une bonne liste, on a établi une bonne liste. Maintenant, mets les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, le chrétien, ah, ça y est, je ne vais pas être sauvé. Ce n'est pas le salut dont il est question ici. Non. Ce n'est pas le salut. Quand on dit hériter, un héritage, c'est quoi? Qui c'est qui hérite? C'est quelqu'un qui a une filiation, non? Ou qui a un lien de parenté, oui ou non? Alors, si on parle d'hériter, on est en train de te parler ici de quelque chose dont tu vas te priver toi-même si tu marches selon la chair. Ça dit que tu n'auras pas la puissance de Dieu. Le règne de Dieu ne pourra pas s'établir dans ta vie, ni au travers de ta vie pour impacter ceux et celles qui t'entourent. C'est impossible. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le ciel. Jésus disait toujours, allez leur dire que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Et quand les gens lui ont demandé, mais montre-nous le royaume, il leur a dit, mais écoutez, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne peut pas dire, voici, il est ici ou il est là. Il est en train de dire quoi? Que le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique. Le royaume, c'est le règne de Dieu. L'établissement du règne de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va venir, il va revenir une deuxième fois pour rétablir le règne de Dieu entièrement. Donc, si tu marches selon la chair, selon ces choses-là, autrement dit, tu marches selon quoi? Selon la chair. Donc, tu ne peux pas manifester le règne de Dieu. C'est impossible. Parce que tu te disqualifies toi-même. Toi-même. Frères et sœurs, cette liste, nous la connaissons très bien. Et Paul va s'adresser dans le même esprit aux chrétiens de Rome en leur disant ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même. Vous comprenez pourquoi Dieu dit le seul moyen en attendant de revêtir le corps de l'incorruptibilité, le moyen que j'ai pour vous, c'est que vous puissiez marcher selon l'esprit, c'est à vous de dompter votre propre chair. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu, c'est impossible. L'apôtre Paul continue en disant, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Parce que quand tu vis selon ces choses-là, la dissolution, l'impureté, les mensonges, toutes les choses que nous avons lues dans la liste de Galates, quand tu vis selon ces choses-là, ta foi est comment? Elle est paralysée, mon frère, ma sœur. Ta foi est paralysée. Tu ne peux pas être opérationnel dans le domaine spirituel. Ta foi est paralysée. Et vu que la seule chose qui fasse que nous soyons plaisants à Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Si tu ne peux plus faire confiance à Dieu parce que tu vis dans ces choses, en ce moment-là, tu ne peux plus plaire à Dieu. Ça dit que tu deviens comme un ennemi de Dieu par ton attitude, par ton comportement. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit maintenant aux chrétiens de Rome. Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient. Alors la plupart d'entre nous, nous avons reçu l'Esprit de Christ, oui ou non? Il est en nous, nous appartenons à Dieu. Alors donc nous pouvons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous avez compris que mon but, le but de mon message, ce n'était pas de rester longtemps sur la liste des œuvres de la chair, non. C'est juste pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre dans la victoire. Parce que la victoire est déjà acquise. Et pourquoi on n'en profite pas? Mais parce que nous ne voulons pas vivre le chemin par lequel Dieu nous demande d'emprunter pour pouvoir justement vivre cette victoire. Regardons maintenant ce que Paul dit aux Galates. Il va leur dire, voici, mais le fruit de l'esprit. Nous avons vu les œuvres de la chair. Elles sont évidentes. On est d'accord, hein? Quand quelqu'un est sous, il est sous, oui ou non? Vous avez besoin d'une loupe pour voir qu'il est sous? Non! Vous n'avez pas besoin de ça. Eh bien oui, quand quelqu'un est en colère, il est en... Et ça se voit. Quand quelqu'un mange trop, eh bien ça se voit qu'il mange trop. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Ce sont les œuvres de la chair. Elles sont évidentes. Quand quelqu'un vit dans l'impureté, on sait que la personne vit dans l'impureté. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. On le voit parce que sa chair produit des œuvres. Et l'apôtre va dire, mais le fruit. Ah, il ne dit pas les œuvres, il dit le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la... Ah, donc c'est nous. Nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par... Marchons aussi selon... Et alors? Essayez d'enlever les quatre pneus à votre voiture et démarrer. Vous venez me dire si vous avez pu aller quelque part. Eh bien oui. Si la voiture doit rouler par ses pneus, eh bien mettez-lui les pneus pour qu'elle roule. Alors si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous donne vraiment... Les épîtres de l'apôtre Paul sont des épîtres essentielles pour la vie de l'Église. Quand on regarde ce qu'on va lire maintenant dans le chapitre 12 de l'épître aux Romains, on se rend compte de ce que c'est véritablement la chair par rapport à ce que je vous ai dit dès le départ. Voici ce qu'il dit, je vous exhorte. En fait, c'est presque le même mot, je vous supplie, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Ah, donc le culte raisonnable, c'est d'offrir d'abord son corps en sacrifice à Dieu. Et il y a la deuxième chose, je vous ai dit que l'homme, la femme qui sont nés de nouveau sont esprit, âme et corps. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Vous avez remarqué, moi j'avais l'espoir que quand je me ferai baptiser, ma tête, elle deviendrait plus petite que celle que j'ai aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. La première chose que j'ai faite quand je suis sorti du baptistère, j'ai couru pour regarder face à un mur. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Cette histoire, tu es une nouvelle créature, mais moi, je vois que je suis toujours le même. Non, l'histoire du miroir, elle n'est pas vraie. C'est juste pour vous faire comprendre que quand on est de nouveau, même quand on passe dans le baptistère, lorsqu'on s'engage pour suivre Dieu, ben on voit bien que ce n'est ni notre corps, ni nos attitudes qui changent. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Et tout le programme de transformation, de maturation, est dans l'esprit qui est né de nouveau parce que le Saint-Esprit habite en lui. C'est pour cette raison qu'on dit le fruit de l'esprit, ce que l'esprit produit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi. C'est cela, frères et sœurs. Donc la deuxième chose, nous devons offrir nos corps. Et la deuxième chose, il dit, ne vous conformez pas. Ah, c'est pour ça que les gens ont du mal, ils se disent, ben oui, la chair, c'est le corps. Non, le corps est amoral. Mon corps là, si moi je lui donne une instruction, malgré le fait que j'aime ma mère, si je lui donne une instruction de prendre le couteau et de l'enfoncer à ma mère, il le fera. Parce que le corps est amoral. Il suit soit les instructions de l'âme, soit les instructions de l'esprit. Le corps ne prend aucune décision. Le corps va vous renvoyer, par exemple, un signal. J'entends les ventres qui sont en train de faire glou, 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 glou maintenant. Le corps envoie un signal à la tête. La tête a beau recevoir le signal et vous dire, ben voilà, moi, le corps a faim, il a besoin de s'alimenter. Si vous, vous ne voulez pas, vous n'allez pas manger. Le corps est amoral. La chair, ce n'est pas que le corps. C'est l'association du corps et de l'âme. C'est pour cette raison que l'apôtre dit, après avoir offert vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, il y a une deuxième chose que vous devez faire. Vous ne devez pas vous conformer au siècle présent, mais vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que dans Galates, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit que les hommes et les femmes sans Dieu ont quel type d'intelligence? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, pour que cette intelligence obscurcie soit éclairée, soit illuminée, il faut que le Saint-Esprit qui est dans notre esprit puisse justement produire ce fruit, produire par la parole, et faire en sorte que cette intelligence devienne lumière. Nous sommes étrangers. Notre cœur est dur quand nous sommes sans Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si notre intelligence n'est pas renouvelée, alors comment voulez-vous que nous puissions discerner la volonté de Dieu? Et c'est ce qui embête les chrétiens. Ils se disent, mais je ne comprends pas. Dieu ne me parle pas. Mais regarde d'abord quel est l'état de ton âme. Dieu ne te parle pas. Dieu te parle. Il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez déjà vu un père? Bon, dis-moi un peu, Xavier. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à Flavie? Tu as dû lui parler hier. Peut-être même ce matin. Mais quel est ce père qui ne va pas parler à son enfant? Où est-ce que vous avez vu ça? C'est impossible. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais selon l'état de notre âme, si notre intelligence est renouvelée ou non, on ne peut pas discerner ce que Dieu nous dit ou ne nous dit pas. Parce qu'on a beau naître de nouveau, frères et sœurs. Notre intelligence n'est pas renouvelée, elle n'est pas lumière. C'est un processus de transformation. On passe dans la casserole d'abord pour chauffer les fraises avant de faire la confiture de fraises, frères et sœurs. Pour arriver à la confiture, un produit fini qui nous plaît bien le matin sur des biscottes. Eh bien oui, mais il va falloir d'abord faire bouillir les fraises. Il va falloir les mouliner ensuite, oui ou non? Eh bien oui, c'est ça qu'on n'aime pas. On veut obtenir la confiture sans être passé dans la marmite, sur le réchaud, je ne sais pas sur quoi, et sans être passé dans le moulinex. C'est ça la transformation. Renoncer, c'est cela. Eh bien oui, mais un vieil adage dit quoi? On ne peut pas faire? Ah, des omelettes sans casser quoi? Ah. Tu as beau avoir des œufs, si tu veux une omelette, il va falloir qu'à un moment tu fasses quoi? Que tu les battes un tout petit peu si tu veux, ou bien tu peux les mettre au plat comme ça, je ne sais pas, comme tu veux. C'est ça, frères et sœurs. Nous sommes appelés à vivre cela. C'est pour cette raison que l'association du corps et de l'âme qui ne sont pas régénérés, nous causent des problèmes. Et c'est cela la chair. Vous comprenez maintenant la chair? Vous avez reconnu là, les œuvres de la chair? Est-ce que l'apôtre Paul a dit, attention, ce sont les œuvres du démon? Les mauvais esprits existent. C'est une réalité. Mais la Bible nous dit, comme je viens de vous le dire, on ne peut pas, à moins qu'on soit des chrétiens schizophréniques, qu'on ait en même temps l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu, il n'y a pas de souci, si ça existe, mais moi je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Comme je suis un étudiant éternel, je verrai peut-être que la semaine prochaine, les semaines d'après, peut-être que je découvrirai. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas découvert, j'ai lu quelques livres, je n'ai pas découvert que le chrétien, la chrétienne, sont remplis en même temps de l'esprit de Dieu et de l'esprit de Satan. Non. Je sais seulement que la Bible me dit que c'est l'esprit de Satan qui nous conduisait avant de connaître Christ. Et quand Christ est venu nous délivrer, désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, oui ou non? Donc, c'est cela. Donc, si l'Esprit de Dieu est en nous, alors, donc, c'est cet Esprit-là par lequel nous devons être conduits. Et c'est pour cette raison que, quand on parle des œuvres de la chair, il n'est pas question ici. Moi, j'entends quelquefois, non, il a un esprit de dispute. Il a un esprit, c'est un démon de l'alcool. Mais vous avez déjà vu le démon? Mais les démons, ils sont là, ils disent, mais nous sommes des menteurs, c'est notre boulot. Mais eux, je ne comprends pas pourquoi ils mentent sur nous à chaque fois comme ça. Même quand on ne fait rien, ils nous accusent. C'est le démon de ceci. C'est le démon de cela. Vous savez pourquoi on le fait? Parce qu'on a envie complètement de nous laver les mains par rapport à notre responsabilité de dominer la chair. Comme ça, ça nous soulage en sachant que, ah ben oui, mais c'est un démon. Ah, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est à cause du démon, Seigneur. Il y a un esprit, je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de nier la réalité spirituelle du monde des ténèbres. Non, l'apôtre Paul a bien parlé des dominations, il a parlé des principautés, il a parlé des princes de ce monde des ténèbres, il a parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des catégories qui existent. Et c'est une réalité. Mais je vous dis, frères et sœurs, que la Bible, Christ nous a donné lui-même. Il a dit, il faut que vous sachiez une chose. Pour délivrer quelqu'un, il faut d'abord s'assurer de lier l'homme fort qui tient la personne. Et si Christ, oh alléluia, s'il est passé sur le bois de la croix, la Bible dit qu'il l'a dépouillé Satan, oui ou non? Il l'a livré en spectacle. Et c'est pour cette raison que nous qui étions liés par Satan, Christ nous l'a libéré de Satan. Quelqu'un devait dire Amen ce matin. C'est cela, frères et sœurs. Donc nous ne sommes plus redevables à Satan. Il nous a libérés, nous lui appartenons désormais. Donc l'esprit qui trône sur notre cœur, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est plus Satan. Nous n'avons plus rien à faire avec lui, nous ne sommes plus ses esclaves. Nous sommes devenus des esclaves libres de Christ. Nous lui appartenons. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. Nous lui appartenons. C'est cela, frères et sœurs. Donc nous devons être conscients de ces choses. Donc les esprits existent bel et bien. L'influence démoniaque sur les chrétiens, elle peut exister, mais ce n'est pas une possession, parce qu'il y a trois niveaux d'influence démoniaque. Il y a l'oppression, il y a l'obsession et la possession. Un chrétien peut être oppressé, il peut être obsédé, mais il ne peut pas être possédé. Ce n'est pas possible. L'esprit de Satan ne peut plus détrôner l'esprit de Dieu qui est en moi. C'est impossible. Quand je dis il peut être oppressé, vous pouvez subir des pressions de l'ennemi. Vous pouvez subir des obsessions de l'ennemi dans vos pensées. Autrement dit, il vous attaque dans quoi là? Il vous attaque par rapport à ce qui n'est pas régénéré en vous, dans le corps et dans l'âme. Il ne peut plus. C'est pour ça que Jésus a dit l'esprit est bien disposé, il est fort, il est rempli de Dieu. Finis rapidement, frères et sœurs. Je vais conclure. Avec les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Nous savons tous que les dons spirituels, comme le nom l'indique si bien, ce sont des dons. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de notre effort, qui ne dépendent pas de notre capacité à faire quoi que ce soit. Le don spirituel, c'est une capacité surnaturelle dont investit le Saint-Esprit, un enfant de Dieu, et je peux vous dire que le Saint-Esprit est capable même d'investir quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 12. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme... Donc ça c'est la souveraineté du Saint-Esprit. C'est la souveraineté, c'est-à-dire il utilise un homme, il utilise une femme, parce que lui, il a un message à faire passer. Il l'utilise pour que le message soit délivré. Et vous savez que Dieu est même capable d'utiliser ses ennemis. Donc le don spirituel n'a rien à voir avec notre piété. Nous ne devons pas nous féliciter. Je bénis Dieu qui est l'exercice des dons spirituels dans notre assemblée. Mais nous ne devons pas nous féliciter de l'exercice des dons spirituels en pensant que nous avons une vie de piété. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la piété, les dons spirituels. Je vous prends juste deux exemples. Un dans l'Ancien Testament. Lorsque Saül pourchassait David, David est parti de la cour du roi, il allait se réfugier à Rama, chez le prophète Samuel. Et Samuel, ayant pris peur, il a dit à David, « On ne va pas rester à Rama. » Ils sont allés à côté dans une ville appelée Najot. Et Saül a été informé de la présence de David auprès de Samuel à Najot. Il a envoyé des émissaires pour capturer David afin de le ramener. Et les gens qui sont partis, ils ont trouvé Samuel à la tête d'un groupe de prophètes qui prophétisaient. Et les gens qui venaient avec des desseins d'attraper David pour le ramener à Saül, ils ont commencé à prophétiser. Trois groupes ont été envoyés, ils ont prophétisé. Saül était déjà déchu. Vous pouvez trouver ce texte dans 1 Samuel 19. Saül était déjà déchu, oui ou non? Il est déchu lui-même parce qu'il voit qu'il n'y a pas de résultat avec ses émissaires. Il prend la décision de se rendre à Najot pour capturer David et le ramener avec lui. Et quand il arrive sur le chemin, la Bible nous dit quoi? Que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a commencé à prophétiser. Est-ce qu'on peut dire que Saül avait une vie de piété? Par rapport à Dieu, il avait déjà été déchu, il avait désobéi, oui ou non? Dieu l'a utilisé. Maintenant, revenons à ceux qui sont plus proches de nous, l'église de Corinthe. Dieu a été obligé de dire à l'apôtre Paul, écrit, je ne peux plus supporter ce que je vois. Ils ont un exercice abondant des dons spirituels. Mais quand je regarde leur vie, c'est une vie de cochon. Je ne comprends pas. Paul était obligé de leur écrire pour dire, mais vous utilisez, vous exercez les dons spirituels, mais regardez, vous êtes dans les divisions, vous êtes dans le sectarisme, vous êtes dans Apollos, dans Pierre, dans Paul, dans je ne sais quoi d'autre, qui d'autre encore. Ça, c'est l'immaturité. Pourquoi? Parce que le don, vous comprenez que Dieu est même capable d'utiliser un enfant. Est-ce que l'enfant est mature? Si vous lui parlez même de ce que c'est, je ne sais pas, la sainteté, il va dire c'est quoi? C'est quoi la sainteté? Dieu est capable d'utiliser un enfant pour vous parler. Mais or, le fruit de l'esprit, comme nous l'avons lu, ne concerne pas la puissance, mais le caractère. C'est ça le fruit de l'esprit, c'est le caractère. La transformation de notre caractère. Le renoncement à notre moi pour laisser, comme Jean-Baptiste l'a dit en son temps, maintenant que Christ est manifesté, révélé, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et l'apôtre Paul le dira plus tard sous une autre forme. Il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ était formé en lui. Quand Christ est formé en toi, mon frère, quand l'Esprit de Christ domine dans ta vie, l'amour n'est plus un problème pour toi. La joie ne dépend plus des circonstances. La paix ne dépend plus des circonstances. Elles peuvent être réelles, les circonstances difficiles. Mais avec l'amour, la joie, la paix, parce que tu vis en communion avec le Saint-Esprit, tu transcendes, tu deviens comme un homme, une femme qui est sur une colline, une montagne haute, élevée, et tu vois tes difficultés dans la vallée. Elles sont tellement infimes. Et Dieu te donne de voir les choses de cette manière-là. Pourquoi? Parce que tu laisses Christ être formé en toi. Aimer les gens ne devient plus un problème, n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème, l'amour, la justice, frères et sœurs. Donc le fruit de l'esprit, c'est notre caractère. Nous ne devons pas nous féliciter. C'est pour cette raison que je disais, on ne doit pas se féliciter. On peut prophétiser. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Vous savez, je termine. Au chapitre 12 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul commence avec les dons spirituels. Moi, j'ai toujours pensé, c'est ma faiblesse, ça c'est mon hypothèse, ce n'est pas une doctrine. Moi, je me dis à un moment, Dieu lui a dit, Paul, si tu vas, tu fonces sur les dons spirituels là, ils vont tous être perdus. Arrête-toi un moment, fais un chapitre sur l'amour. Écris 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Dis-leur que tous les dons spirituels que vous exercez sans l'amour ne valent rien. Vous comprenez maintenant? Le fruit de l'esprit. Si tu veux être un canal qui donne le don que le Saint-Esprit met à travers ta vie, avec authenticité, avec véracité, tu as besoin que ton caractère soit modelé à l'image de celui qui t'a créé. Toi et moi, nous avons besoin de cela. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces choses. Parce que nous sommes appelés, bien évidemment, à vivre le fruit de l'esprit. Et vous avez compris que quand on parle de fruit, c'est un processus. On ne peut pas planter un arbre, je l'ai dit il y a quelques semaines, on ne peut pas planter un arbre et en attendre du fruit le jour où on l'a planté. Il y a un laps de temps qui se passe entre le moment où on a planté et le moment où on va récolter les fruits, oui ou non? C'est un processus. C'est pour cette raison que nous devons rentrer dans ce processus. C'est toute la vie ça. Toute la vie on apprend Christ. Toute la vie, on apprend à modeler notre caractère à l'image de celui qui nous a créés. Toute la vie. On ne peut pas se relâcher en disant, ça y est, j'ai eu la victoire sur la patience. Mais l'esprit crie encore expressément en toi. Ah, et l'impudicité. Ah, ça, et pardon, et la joie. Est-ce que tu vis la joie? Est-ce que tu vis la paix parfaitement? Est-ce que tu vis la maîtrise de soi parfaitement? Et là, tu te rends compte que c'est un seul fruit. On n'a pas dit les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour sur lequel tapisse la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire et louange te soient rendues. Honneur à toi. Victoire à toi. Merci parce que je vis dans ta victoire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen.